Radio Okapi. Okapi. Journal présenté par Pascal Massirika.
Au sommaire de cette édition d'information, réaction à Kinshasa au discours du président Félix Tshisekedi sur la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. L'Union Sacrée salue la mesure alors que l'opposition estime que cette disposition viole les articles 76, 197 et 220 de la Constitution. La COGEP, une plateforme de la société civile sur la transparence et la redevabilité des entreprises publiques en RDC, plaide pour la publication du contrat signé entre la SACIMA et la firme rwandaise Diter Limited sur l'exploitation des mines d'or dans l'est de la RDC. Des précisions dans ce journal. Notre invité, c'est le responsable de la communauté islamique en Ituri, Cheikh Choukrani, affirme que la restauration d'une paix durable dans cette province en proie à l'activisme des miliciens passe par une prise de conscience collective. Madame, Messieurs, bonsoir. Aucune disposition constitutionnelle n'autorise au président de la République de maintenir indéfiniment l'état de siège au Nord Kivu et dans la province de l'Ituri. Telle est la réaction de certains parlementaires à Kinshasa au discours prononcé hier soir à New York par le chef de l'État. Si pour ceux de l'Union Sacrée, cette prorogation vaut son pesant d'or, tant que l'insécurité va perdurer dans cette partie du pays, ceux de l'opposition par contre estime que le maintien de l'état de siège au-delà de 120 jours viole les articles 76, 197 et 220 de la Constitution. Explication de Michel Kifindangoy.
À en croire les députés de l'opposition Jean-Baptiste Mouindo, les dispositions constitutionnelles en vigueur en RDC dont l'article 220 n'autorisent pas de proroger indéfiniment l'état de siège.
Les prorogations perpétuelles de l'état de siège mettent les institutions provinciales à congé à l'article 76, à cas de vacances à la présidente de la République, ou à l'article 197, à cas de dissolution de l'Assemblée. La Cour constitutionnelle ne peut accorder à la CENI qu'un délai maximum de 120 jours. En vertu de quoi lui va-t-il accorder à l'état de siège un délai au-delà de 120 jours?
Toutefois, les députés Jackson Haoussé de l'Union Sacrée félicitent le chef de l'État d'avoir mobilisé la communauté internationale contre les forces négatives dans l'Est.
Il n'y a pas la raison qu'on puisse lever l'état de siège, étant donné que les causes qui ont motivé cette proclamation existent encore bel et bien. Malheureusement pour nous, c'est que nous maintenons la population dans une mesure exceptionnelle. La Constitution voulait que des mesures exceptionnelles ne durent pas longtemps.
L'élu de l'Ituri plaide pour la mise en place urgente des mécanismes mais DDRC pour encourager les groupes armés à se rendre, ainsi que pour le lancement des opérations militaires contre les milices étrangères.
Merci Michel Kifindangoy pour ces précisions. Politique encore, au cours d'un entretien d'hier mardi à Kinshasa avec le président Modeste Batilukwebo, les sénateurs du Kasai central ont exprimé leur inquiétude sur l'interdiction faite à l'université du Kasai d'organiser la faculté de médecine. Ils se disent également préoccupés par le manque de vols pour desservir l'espace Kasai depuis la révision à la baisse de prix de billets d'avion et le manque d'équipement nécessaire de la police nationale pour sécuriser la population. L'un d'eux, le sénateur Denis Kambay, s'est confié à Michel Kifindangoy.
Vous savez, depuis que le gouvernement des Warriors, le gouvernement de la République, a eu à prendre la décision pour la baisse des prix de billets en ce qui concerne le voyage à l'intérieur, il y a beaucoup de compagnies qui posent problème aujourd'hui. Ce qui est scandaleux, c'est de comprendre qu'au niveau de la province du Kasaï central, nous n'avons aucun vol. Les gens ont des difficultés d'aller atterrir, soit à Mbujimayi ou à Chikapa, et prendre la route avec tout ce qu'il y a comme conséquence sur des motos. Et vous savez, la province du Kasaï central est fondamentalement enclavée. C'est au centre de la RDC. Et en tant que sénateur du coin, nous devrions nous mettre debout quant à ce. Et la troisième préoccupation est celle liée à la sécurité. La province du Kasaï central n'a aucun véhicule de patrouille policière. Vous savez que c'était le fief de Kamuina Nsapu. Aujourd'hui, ça pose problème de constater que la police qui opère fait des patrouilles à pied, des kilomètres et des kilomètres. C'est un problème.
Le président du Sénat a par ailleurs échangé avec la délégation du Centre européen pour l'appui électoral. Les hôtes de marque de Modeste Batiloukwebo ont été édifiés par les aspects politiques qui entourent la réforme de la CENI. Économie à présent. La coalition pour la gouvernance des entreprises publiques, une plateforme de la société civile qui milite pour la transparence et la redevabilité des entreprises publiques en RDC, s'est dit vivement préoccupée par le refus manifeste du gouvernement Samalou Kondé Kiengé de publier l'accord signé le 26 juin dernier entre la SACIMA et la firme rwandaise Diter Limited. La SACIMA, une entreprise de l'État congolais, et cette firme rwandaise d'un droit privé ont convenu en effet d'exploiter des mines d'or dans l'est de la RDC. Dans un communiqué publié hier mardi à Kinshasa, la COGEP dit constater non sans amertume que plus de 60 jours après la signature de cet accord, l'accord n'est publié ni sur les sites du ministère des Mines, ni au journal officiel de la RDC. Des précisions avec un des membres de la COGEP, Philippe Rufunangiza, est au micro de Daniel Tambizoni.
Nous faisons le constat que le gouvernement n'a pas publié le contrat qui a été signé entre la SACIMA et cette firme rwandaise. Nous rappelons qu'au terme de la loi qui organise l'exploitation minière en RDC, le gouvernement est tenu de publier tous les contrats miniers sur les sites web du ministère des Mines et dans le journal officiel. Et aujourd'hui, plus de 60 jours après la signature de ce contrat, le gouvernement n'a toujours pas rendu public le contenu de ce contrat. Nous regrettons que le gouvernement choisisse comme mode de gestion des entreprises publiques l'opacité, parce que c'est le constat qu'on peut faire. Nous voulons demander davantage au gouvernement de fournir des efforts pour ne pas se positionner comme l'artisan de la violation de ses propres lois, parce qu'il n'est pas normal que le gouvernement de la République édicte une loi et qu'il soit le premier à ne pas la respecter. Comment alors les étrangers ou les citoyens lambda peuvent-ils respecter la loi si le gouvernement la viole ?
Nos efforts pour avoir la réaction du gouvernement central n'ont pas encore abouti. En Ituri, pendant ces temps, une centaine de véhicules est bloquée sur le tronçon Bunia-Mahagi qui s'est détérioré par la pluie diluvienne. Les chauffeurs déplorent également l'état piteux de l'axe routier qui va de Bunia à Luna en passant par Komanda. Il redoute les embuscades des miliciens de la Codeco et des rebelles ougandais de l'ADF. Pour en parler, retrouvons à Bunia Isaac Remoyope.
Plusieurs bourbiers parsèment les tronçons Jina, Matete, Pizzo et Pimbo sur la RN27, affirment des chauffeurs. Certains véhicules se renversent et bloquent la circulation. Depuis mardi, plus de 100 camions transportant des marchandises sont bloqués sur cet axe. Même décor sur les tronçons Bunia Komanda et Komanda Luna, c'est la route nationale numéro 4 où des véhicules font parfois une journée ou deux jours sur une distance de 50 km. Selon les usagers des routes, les groupes armés dont Codeco et ADEF profitent de l'état de délabrement de ces tronçons pour tendre des embuscades contre les véhicules et piller les marchandises. Il demande au gouvernement de réhabiliter d'urgence ces routes qui contribuent au développement de la province. Contacter les chefs de la CELI de communication du gouvernement provincial indique que le gouverneur de l'Ituri, le général Johnny Kachama, a renouvelé le contrat signé par son prédécesseur avec les entreprises qui étaient chargées de réhabiliter ces tronçons. Le lieutenant Gilles Ngongo ajoute que les travaux seront lancés bientôt.
Le gouverneur militaire, il a redynamisé ses attributeurs pour arriver à porter la solution sur le voie routière, parce que avoir un réseau routier plus fluide va permettre la réussite des opérations. Ça fait partie des priorités du gouverneur.
De Bunia, Isakare Moyope, Radio Okapi.
Et au nord Kivu voisin, le pont Vulindi reliant la ville de Butembo au groupement de Malio dans la chefferie de Bachou a été incendié mardi soir. La veille, des hommes armés ont attaqué une position des FARDC dans la localité de Butoué. Radio Okapi Butembo, Florida Kahambu.
Des sources concordantes rapportent que le pont Vulindi a été incendié autour de minuit. Les auteurs de l'incendie ne sont toujours pas connus. Les flammes ont sérieusement endommagé l'ouvrage. Tout le platelage placé sur le support métallique est parti en fumée. Ce pont joue pourtant deux rôles capitaux pour la survie de la population de la ville et du groupement Malio. Du point de vue économique, l'ouvrage facilite les transports des camions qui approvisionnent la ville de Butembo en produits vivriers, notamment les cossettes de manioc, les haricots et les légumes. Sur le plan sécuritaire, cet ouvrage constitue l'unique voie qui permet aux forces de sécurité d'intervenir promptement en cas de toute menace signalée dans cette partie de la chefferie des Bachou, en proie à plusieurs groupes armés. Le dernier cas en date remonte au lundi. Deux casques bleus de la MONUSCO ont emprunté le même pont lorsqu'ils ont été alertés de l'attaque d'hommes armés contre une position de fer d'essai à Boutoué. Vu l'importance de ces ponts, des jeunes sont vite intervenus dans la matinée pour éteindre les feux et remplacer tous les bois consumés. Les boukoumasses de la commune de Voulamba, le commissaire supérieur principal Suelen Sendetrifon, affirme que ces jeunes ont été appuyés par la MONUSCO. La même source fait savoir que les enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs de cet acte. Boutembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
Autre nouvelle sur Radio Kapi ce soir, lutter efficacement contre l'émergence et la propagation des discours haineux, tel est l'objectif d'un atelier organisé par le bureau de l'UNESCO aujourd'hui à Kinshasa. Les organisateurs des assises parlent de menaces pour les valeurs démocratiques, la stabilité sociale et la paix. À cette occasion, le coordonnateur résident des Nations Unies en RDC a affirmé que les Nations Unies ne seront jamais complices des discours de haine. David Maclaclacar est au micro de Jean-Didier Ogobani.
C'est pourquoi les Nations Unies élèveront toujours la voix pour dénoncer les messages de haine, appeler les auteurs à la raison et inviter les autorités à prendre des mesures qui s'imposent pour les sanctionner fortement. Toutes les couches sociales sont touchées par ce phénomène qui s'accentue à travers les réseaux sociaux et médias traditionnels ou en ligne et c'est donc un climat de relative impunité. Il importe que le gouvernement prenne des mesures nécessaires pour prévenir, faire face et réprimer les discours de haine. Les Nations Unies lui fournira le soutien nécessaire pour une RDC unie et forte pour une paix durable.
Notez que cet atelier réunit une cinquantaine de membres du gouvernement, des éducateurs et universitaires, des journalistes, des blogueurs et militants des droits humains. Il est appuyé par la MONUSCO et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. L'actualité, c'est aussi la reprise ce mercredi en appel à la prison de Ndolo ici à Kinshasa du procès du double assassinat de Floribert Tchebeya Baïziré et de Fidel Bazana, condamné par contumace à la peine de mort au second degré devant la cour militaire. Les policiers fugitifs Christian Ngoikenga Kinga et Jacques Mugabo ont été identifiés aujourd'hui. Et comme ils n'ont pas été assistés de leurs avocats, la cour militaire a renvoyé l'affaire au 6 octobre prochain afin de pourvoir à leur conseil par l'Ordre national des avocats. Le compte-rendu de Jeff Ngoy.
Tout commence par un tumulte provoqué par le commissaire supérieur Kenga Kenga. Licencié d'un institut supérieur de Lubumbashi, il choisit de s'exprimer en swahili. Il refuse de se tenir devant la barre et de répondre aux questions du juge. Il accuse la justice militaire de l'avoir arrêté comme un rebelle et de l'avoir privé de tout contact avec sa famille. Le juge rappelle à l'incriminé les dispositions de la loi en cas d'outrage à magistrat, notamment de le renvoyer en prison et de le juger et condamner comme rebelle. Il reste imperturbable. Avocat des parties civiles, famille Tchebeya Bazana, la voix de 100 voix et le Renadoc, maître Richard Bondo explique la procédure en cours.
Ici, c'est la procédure en disjonction des poursuites parce que, au degré d'appel, devant la haute cour militaire, il a été décidé la disjonction des poursuites vis-à-vis des fugitifs. Il y avait 3 fugitifs. Les 2 qui comparaissent aujourd'hui, en l'occurrence, Ngoikenga Kenga Christian et Jacques Mugabo, plus Mwilambwe Paul.
Prévenu d'assassinat, enlèvement, terrorisme, désertion, détention illégale d'armes. Les 2 anciens fugitifs retrouvés ont interjeté appel le 31 mai dernier contre l'arrêt rendu en leur absence au mois de septembre 2015 au motif du mal jugé.
Autre nouvelle sur Radio Kapi, Chemin du Paradis, c'est le nom d'un cimetière de Kinshasa, pas comme les autres. Au motif, l'accès vous est refusé si vous êtes habillé en culotte ou si vous portez des babouches. L'un des responsables du site affirme à Radio Kapi que cette réglementation vise à honorer les morts. Cependant, beaucoup de familles éprouvées qui viennent honorer leurs morts désapprouvent cette approche. Constat fait pour nous par Michel Outeté.
C'est un cimetière moderne situé à Mitendi dans la commune de Mongafula. Ce site n'est pas accessible à toutes les bourses. Ici, ce sont des familles d'une certaine classe sociale qui viennent enterrer leurs proches. à l'entrée du chemin du paradis, musée des mémoires, où nous nous trouvons, ce sont des centaines de personnes qui affluent, visage triste, d'autres crient leur douleur. Ceux qui portent des culottes ou autres babouches sont stoppés à l'entrée du cimetière. L'accès leur est refusé au motif que leur accoutrement pose problème. Un des responsables du site est formel, les morts méritent un minimum de respect, affirme-t-il sur un ton ferme. Tout le monde doit respecter ces règlements, ajoute-t-il. Certaines familles endeuillées refusent de se plier à ces exigences qu'elles qualifient d'absurdes. Témoignage.
Je suis venu enterrer ma belle-mère. Je suis surprise. Je vis l'air directeur qui me parle, que tout le monde qui porte le babouche ne peut pas entrer. Ça, j'ai trouvé ça, excusez-moi les termes, absurde.
Pour lui, l'amour, c'est ce qui est le plus important.
Pour moi, c'est le cœur, c'est le souci, c'est l'amour qu'on porte à la personne qui vient de nous quitter. C'est ce qui est plus important.
Outre le port de culottes et des babouches, celui des cinglés pour les dames est aussi interdit ici. Les familles éploraient dément la suppression pure et simple de ces interdictions.
Actualité internationale.
Les talibans s'invitent à l'Assemblée générale des Nations unies à New York et réclament eux aussi le droit de s'exprimer au nom de l'Afghanistan devant les dirigeants de la planète. Problème. L'ambassadeur de l'ancien gouvernement afghan chassé du pouvoir à Kaboul le 15 août dernier exige lui aussi de représenter le pays. Le Mali célèbre ce mercredi le 61e anniversaire de son indépendance obtenue par Modibo Keïta, son premier président. Hier soir, le colonel Assimi Goïta s'est adressé aux Maliens. Cependant, il est resté plus que sobre sur la date de futures élections générales et la polémique autour d'une possible signature d'un accord avec le groupe Wagner, une société privée russe de sécurité.
L'invité.
Notre invité, c'est le responsable de la communauté islamique dans la province de l'Ituri, Cheikh Choukrani, affirme que la restauration d'une paix durable dans cette province en proie à l'activisme des groupes armés passe par une prise de conscience collective. Il s'entretient avec Jean-Claude Lokidile.
Cheikh Choukrani, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Aujourd'hui, le monde célèbre la journée internationale de la paix. Pour vous, la paix, à quel sens, plutôt nous qui vivons en Ituri, quoi?
La paix est primordiale pour la communauté islamique. Ça a un grand sens dans le sens où l'islam même veut dire la paix et la tolérance et la soumission aux lois divines. Et pour nous, la paix est une denrée rare qu'il faut vraiment tenir compte de ça. C'est pourquoi la journée d'aujourd'hui, en tout cas, il faudrait qu'on tienne compte de ça. Et puis que ça soit une occasion de faire l'éveil de conscience. Surtout, faire comprendre aux jeunes, aux vieux, à tout le monde, ce que nous faisons aujourd'hui peut avoir des conséquences néfastes à l'avenir. Et s'il faut laisser quelque chose pour l'avenir, alors il faut tout faire pour que la paix règne, pour que la paix soit pérenne.
Mais selon vous, quelle analyse faites? Pourquoi, malgré tout le travail qui est fait, sensibilisation, dialogue intercommunautaire, intercommunautaire, rapprochement des gens sur le terrain, pourquoi malgré toutes ces approches, l'Ituri continue à vivre dans tout ce qu'il y a aujourd'hui, la division, la haine, le communautarisme, l'Ituri, l'incendie, pourquoi selon vous?
Chacun a ses approches, chacun voit cette situation de la manière où peut-être il se trouve, dans l'environnement où il se trouve. Mais par rapport à nous les confessions religieuses, nous pensons que c'est aussi l'approche de la fin du monde. Lorsque la fin du monde viendra, des situations pareilles seront certainement là pour nous prouver que la fin du monde est là. Mais de l'autre côté, on ne peut pas dire que c'est la fin du monde, alors il faut nous laisser aussi faire pour que les gens continuent à mourir. Moi, je pense qu'il y a le problème de cupidité, il y a le problème des intérêts égoïstes, il y a le problème de manipulation politicienne. Tout ça, il faudrait que nous, les Ituriens, puissent parler une seule langue, soit comme un seul homme, un seul langage qui va permettre à ce que tout le monde soit uni pour cette paix, chèrement acquise même, parce qu'il y avait des problèmes auparavant, mais il y avait quand même une paix, parce qu'il y avait une guerre de triste mémoire ici en Ituri. On a fait quand même un effort, il y a calmie, les gens essayaient déjà de vivre ensemble, essayaient de conjuguer de vivre ensemble. Mais maintenant, le problème est revenu encore, ça fait 14, 5 ans, et les théories continuent, il y a des théories à grande échelle, il y a des récréations d'insécurité. Nous pensons que nous déplorons cette situation, en tant que confession religieuse. Mais aussi, il y a le problème même de ces investisseurs-là, vous dites. Il y a deux façons de voir. Premièrement, il voit que l'Ituri est en guerre. L'Ituri est à l'insécurité. Ils ne peuvent pas venir investir ici chez nous. Et ce sont des manques à gagner. C'est nous qui souffrons. C'est cette population iturienne qui souffre, qui continue à souffrir. une population meurtrie. Mais de l'autre côté, ce même investisseur aussi, lorsqu'il voit que nous ne sommes pas à mesure de conjuguer le verbe vivre ensemble, ils ne sont pas à mesure de faire l'éveil des consciences, et eux aussi en profitent pour attuster le fait, pour faire la division, pour mieux régner, afin qu'ils puissent continuer à, si je peux dire, piller ou voler le matière précieuse ou alors la richesse de notre pays et spécifiquement de l'Itourie.
Déterminer justement, après cette analyse, après cette réflexion, après cette description, ce jour de 21 septembre pour le peuple itourien, pour les jeunes itouriens, devrait revêtir quel sens pour terminer?
C'est un sens du début, du commencement, de réveil, éveil de conscience. Nous devons nous réveiller. C'est comme si nous dormons. L'Itourie nous appartient.
Et vous avez dit, le peuple itourien est assis sur les richesses.
Bien sûr, ça se voit. Et c'est la cause même de ces troubles, des tueries, des guerres. Mais, moi je pense qu'à partir de ce 21, la date d'aujourd'hui, pour moi, c'est une date où la jeunesse, le vieux, le religieux, les politiciens, les gens qui sont au pouvoir, de réfléchir ensemble et dire que non, à partir d'aujourd'hui, trop c'est trop, on doit maintenant faire tout pour qu'on ait la paix dans notre province. Tout le monde doit maintenant voir à son niveau qu'est-ce qu'il doit faire pour contribuer pour la construction de cet édifice de paix pour notre Itourie. Et surtout la jeunesse, parce que ce sont eux qui sont vraiment à la proie de tous ceux qui veulent détruire notre province. Alors je demande à la jeunesse itourienne de se lever comme un seul homme, de dire non à la violence, non à l'insécurité, oui au développement. Oui au changement de mentalité pour que l'Itourie de demain soit Itourie vivable, en tout cas acceptable, et surtout ça permet aux investisseurs de venir investir chez nous.
Cheikh Chougan, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, le responsable de la communauté islamique en Itourie. Cheikh Choukranine était interrogé par Jean-Claude Lokidile. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté. J'adresse une fière chandelle à Pelikipe Lamondo et Alain Irung Mouchich qui m'ont accompagné à produire ce journal. Retrouvez cette édition sur www.radiookapi.net.